Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est 15h à Kinshasa, 16h à Kindu. Voici les titres de votre journal. Le couvre-feu est levé en République démocratique du Congo, sauf dans les deux provinces sous état de siège. Le gouvernement a également annoncé la suppression du test Covid-19 à l'entrée du territoire national pour tous les voyageurs complètement vaccinés. Au nord, au Bangui, la société civile dénonce les mauvaises conditions de vie des détenus de la prison centrale de Badolité. Ainsi, le cadre de concertation de la société civile, dans sa composante droit de l'homme, a organisé ce lundi un sit-in. Notre invité est le docteur Nicolas Folliot, directeur export Biogaran, le laboratoire pharmaceutique qui a lancé le 11 février dernier ses activités en République démocratique du Congo. Bon après-midi chez vous. Le couvre-feu est levé en République démocratique du Congo, sauf dans les deux provinces sous état de siège. Le gouvernement a également annoncé la suppression du test Covid-19 à l'entrée du territoire national pour tous les voyageurs complètement vaccinés. La décision concerne aussi les voyageurs complètement vaccinés pour les vols domestiques. Ils ne seront plus soumis à un test obligatoire. L'annonce a été faite hier à la RTNC par le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, à la suite de la réunion présidée par Félix Tshisekedi avec la task force présidentielle de lutte contre la Covid-19. On écoute Patrick Mouyaya.
Le gouvernement de la République informe la population congolaise des décisions suivantes. 1. La levée immédiate du couvre-feu sur toute l'étendue du pays, sauf pour les provinces sous état de siège. La suppression de tests Covid-19 à l'entrée du territoire national pour tout voyageur complètement vacciné. 3. La suppression de tests Covid-19 pour tout voyageur complètement vacciné à l'intérieur du pays pour les vols domestiques donc. Cependant, le gouvernement de la République attire l'attention sur le fait que la levée du couvre-feu ne signifie nullement la fin de la pandémie en République démocratique du Congo. Surtout avec le risque de survenue d'une éventuelle cinquième vague au regard de la saisonnalité observée après ces deux dernières années de lutte contre cette pandémie. C'est ainsi que les gestes barrières ainsi que les autres mesures précédemment édictées restent de stricte application.
Au nord, au Bangui, la société civile dénonce les mauvaises conditions de vie des détenus à la prison centrale de Badolité. Ainsi, le cadre de concertation de la société civile, dans sa composante droits humains, a organisé hier lundi un sit-in en vue de réclamer une amélioration des mauvaises conditions. Leur mémo a été lu devant le maire de la ville. Plus de détails avec vous, Paul-Richard Malengela.
Dans le moment lu par Taylo Taïmazalo, le président du cadre de concertation, la société civile du Nord Bangui a décrié la violation du droit légitime à la vie reconnu aux détenus. Pire encore, l'un des bâtiments du collège présidentiel, qui fait jusque-là office de prison, manque d'installations hygiéniques, ce qui oblige les détenus à se soulager dans un fût avant d'aller déverser le contenu insalubre dans la nature environnante. Ainsi, la plupart des détenus qui passent la nuit à même le sol, sans lit, tombent fréquemment malades, mais aucune infirmerie en son sein pour leur prison en charge, même pour des cas bénins de fièvre, indique la société civile. Par ailleurs, les enfants en conflit avec la loi sont entassés avec des adultes, conséquence logique d'insuffisance des cellules. Devant l'urgence liée à cette violation flagrante des droits humains dans la prison de Badolité, la société civile du Nord Bangui a préconisé notamment la construction urgente des sanitaires pour les prisonniers et l'aménagement des cellules pour enfants en conflit avec la loi. Ce, en attendant l'érection d'un palais de justice digne et d'une prison moderne en vue de la restitution de l'actuel bâtiment au collège qui entend le réhabiliter bientôt. Notons que la prison centrale de Badolité mesure 16 mètres sur 9. Elle compte à ce jour 125 détenus, dont des condamnés et détenus préventifs, parmi lesquels des enfants en conflit avec la loi. Bandaga, Paul-Richard Malengue, la radio Okapi.
Et pas de ravitaillement à la prison centrale de Kindu dans la province du Maniema. C'est là depuis le mois de janvier dernier. C'est le directeur de la prison centrale de Kindu qui le dit à Radio Kapi. Il fait savoir qu'à part le ravitaillement, les prisonniers n'ont pas de médicaments. Paul Ilunga Lukengo appelle les hommes de bonne volonté à venir au secours de ces 456 détenus. Il le dit à Florence Kizalunga.
Normalement, nous recevons le ravitaillement au mois de janvier, la première tranche. Mais jusqu'à présent, ça ne vient toujours pas. Et nous sommes déjà au mois de février. Aujourd'hui, le 15, nous attendons encore. On se débrouille avec un petit rien là. J'achète comme hier là. Je suis allé au marché, j'ai acheté quelque chose quand même. Ils ont mangé. Auparavant, on craignait les soulèvements. Mais actuellement, les prisonniers sont calmes. Nous les avons sensibilisés de ne plus se soulever. Alors, ils ont compris qu'il n'y a pas de ravitaillement. J'ai échangé avec ma hiérarchie, le chef de division. Il fait une pression de l'autre côté là, pour qu'on nous envoie quand même quelque chose. Aux hommes de bonne volonté, comme les églises, les ONG, c'est pouvoir appuyer les prisonniers. Les prisonniers sont au nombre de 456, 9 femmes et 29 mineurs. Puis il y a aussi les médicaments qui manquent encore.
En Ituri, 11 personnes sont mortes dans une nouvelle attaque de la milice Codeco lundi soir au village lacustre de Mouvaramou et de Kango dans le territoire de Djougou. Des sources locales indiquent que ces hommes armés ont mis le feu à plusieurs habitations de pêcheurs et emporté une importante quantité de poissons. Les rescapés de cette attaque et la population des localités proches ont pris des embarcations pour quitter la zone envahie par ces assaillants. Des détails avec Isaac Remoyopi.
Ces miliciens de la Codeco munis de fusils et d'armes blanches sont partis de leur bastion vers les villages Assada et Alagui. Ils sont descendus lundi soir jusqu'au pied du mont Bleu qui longe une dizaine de localités au bord du lac Albert. Ils ont surpris les pêcheurs qui exerçaient leurs activités de pêche par des tirs nourris d'armes. C'était la débandade totale. Au village de Mouvaramou, on a enregistré 3 morts, dont un militaire qui s'était détaché de sa position. Dans la localité voisine de Kango, ces miliciens ont tué 8 personnes et incendié plusieurs maisons de pêcheurs. Ils se sont livrés au pillage des poissons salés qui se trouvaient sur les étalages et d'autres stockés dans les maisons. Les habitants de ces deux villages se sont précipités dans des pirogues de pêche pour échapper aux exactions de ces inciviques. La plupart de ces personnes se sont dirigées vers Tchomia, centre commercial situé à environ 60 km. Signalons que cette attaque s'est produite après plusieurs mois d'accalmie observée dans ces localités lacustres, ce qui avait permis à de nombreux pêcheurs qui avaient fui notamment en Ouganda de retourner dans la zone pour vaquer à leurs activités. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Restons à Ituri pour signaler en bref que des miliciens de la Codeco se sont installés dans les chefferies Walendu Watsi, des Mokambo et des Pandounou et des Pandarou dans les territoires de Mahagi en provenance de Djougou. Leur mouvement s'observe depuis la semaine dernière par la population locale. Selon la société civile de ces territoires, ces miliciens prennent des habitants en otage pour construire des abris dans leur camp. Ils collectent des vivres dans les marchés et ils font payer des taxes pour leur survie. Une situation qui crée des frustrations et la panique. Les victimes demandent au gouvernement de renforcer l'effectif des militaires pour dissuader ces inciviques. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée. Et puis l'agence de transfert de monnaie des établissements La Colombe et les dépôts de marchandises des établissements John viennent la nuit de lundi à mardi d'être la cible d'un cambriolage à Kongolo, une localité située à 390 km au nord-ouest de Kalemi, dans la province de Tanganyika. Des hommes armés ont tiré pendant plusieurs fois au cours de cette attaque. Beaucoup de biens et des numéraires sont signalés emportés dans ces coups. La police a ouvert une enquête. Elle indique qu'un gardien d'une maison est jusqu'à la portée disparu. Dans la province du Sankuru, le village de Mongo, dans le secteur d'Envungu, dans les territoires de Lodja, évidé de toute la population, un calme précaire règne en ce moment dans les localités du secteur d'Envungi et Nambelu, après les affrontements qui ont commencé la semaine dernière suite à un vieux conflit foncier. La société civile parle de plus de 40 personnes mortes et dont les dépouilles sont abandonnées dans la forêt au cours de ces affrontements. Une information rejetée par l'administrateur du territoire de Lodja qui avance le bilan de 3 personnes tuées, tandis que la police parle d'un cas de décès à l'hôpital général de référence de Lodja. Le Médar Elongué déplore cependant l'agression hier lundi du chef de la localité de Kondo Tchoumbé. Ce dernier a été gravement blessé et il a été acheminé dans un centre hospitalier de Lodja. Signalons que 3 hommes détenus, détenteurs des armes de fabrication locale, arrêtés dans la localité de Koutikoï, dans le secteur de Mvungi, ont été présentés ce mardi à l'administrateur du territoire de Lodja au cours d'une parade tenue au stade. Bonne nouvelle pour les habitants du Kassai oriental. C'est la baisse du prix du litre d'essence en Bujimaï. Vendu la semaine dernière à 7000 francs congolais, un litre d'essence coûte depuis hier, lundi, 5500 francs congolais chez les revendeurs appelés communément Kadhafi. D'après la Fédération des entreprises du Congo et la Société des chemins de fer du Congo, qui justifie cette baisse par l'arrivée à Mouneditu de quelques wagons contenant le carburant. Des explications avec Esther Ndalafina.
Le litre d'essence coûte 5500 francs congolais chez les revendeurs appelés Kadhafi. Il y a une semaine que le même litre se vendait à 6500 francs, voire 7000 francs congolais. La Fédération des entreprises du Congo, FEC Kassai Oriental, justifie cette baisse par l'arrivée à la gare ferroviaire de Mouneditu de quelques wagons contenant les carburants. Dominique Ilunga.
La présence dans les différents dépôts d'un stock important qui a été tracté par la SNCC et cet approvisionnement fait qu'aujourd'hui sur le marché, cette spéculation n'est plus. Alors si ça pourra continuer de cette manière, ça permettra à ce que ça baisse.
Le représentant de la SNCC Mbujimaï confirme cette information et annonce l'arrivée à Mouneditu d'un lot important de carburant dans un bref délai. Justin Mbouyi.
Nous avons réceptionné quelques wagons de carburant en provenance du nord, c'est-à-dire d'Ilebo. Et du côté sud, il y a un lot important de wagons chargés de carburant en cours d'acheminement vers Kamina et Mouneditu.
Signalons que malgré la présence du carburant en Mbujimaï, le prix des transports en ville n'est pas encore revu à la baisse. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
L'invité. Notre invité, le docteur Nicolas Folliot, directeur export Biogaran, le laboratoire pharmaceutique qui a lancé le 11 février ses activités en RDC. D'après son directeur, c'est pour permettre à la population congolaise d'accéder aux médicaments génériques fabriqués selon les normes en France et vendus à moindre coût en RDC. Nicolas Folliot l'a dit dans un entretien avec Fulbert Balolagué. Il est l'invité du journal.
Docteur Nicolas Folliot, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous venez de vous installer en République démocratique du Congo, de lancer vos activités. Pourquoi c'est maintenant en République démocratique du Congo ?
Nous avons conduit une étude et des investigations pour mettre en place une stratégie de développement à l'international en 2016. Nous avons pris la décision et nous avons fait des conclusions et des recommandations à notre direction du groupe, comme quoi il était extrêmement important de développer notre activité en priorité sur l'Afrique subsaharienne, francophones d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Centre. Nous avons commencé à déposer nos dossiers d'enregistrement dans les années 2018-19 sur les pays principalement d'Afrique de l'Ouest dans un premier temps, puisque en fait la réglementation sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique francophone du Centre, en dehors de la RDC, ont une réglementation assez homogène au niveau réglementaire. Au niveau distribution, les prix sont réglementés et donc ce sont, on va dire, des territoires qui étaient assez faciles à appréhender pour démarrer notre expansion à l'export. Et puis, une fois qu'on a démarré avec des pays qu'on considère comme plus simples à démarrer, il faut aller dans les pays qui sont un peu plus complexes. Mais après de multiples investigations sur justement la complexité de la République démocratique du Congo, nous avons été totalement convaincus pour initier des enregistrements et lancer nos activités dès que possible. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On aurait voulu le faire un petit peu avant, malheureusement. Comme vous le savez, avec le contexte de l'épidémie, on est resté pratiquement 2 années sans voyager. Et donc, ça nous a retardé, en tout cas, dans le déploiement de notre activité en République démocratique du Congo.
Qu'est-ce que ça apporte, la présence des biogarants en République démocratique du Congo ? Puisque vous n'êtes pas le premier, certainement pas le dernier, mais qu'est-ce que ça apporte d'être là ?
Il y a plusieurs bénéfices, plusieurs aides que présente Biogarant pour le médecin, le pharmacien, le patient, les infirmières, les auxiliaires de santé. Alors le premier, c'est une qualité d'excellence au niveau du produit, puisque la totalité de nos produits sont au standard européen. Ils sont produits en Europe ou en France et ils suivent la réglementation et notamment il est requis d'avoir des études de bioéquivalence qui sont strictement identiques aux produits originaux. Donc c'est une caution de qualité, c'est une caution d'efficacité et dans le même temps nous avons une taille extrêmement importante en France qui nous permet de bénéficier d'économies d'échelle pour proposer les prix les plus attractifs Départ France de manière à ce qu'on puisse satisfaire les besoins de la plus large population dans les territoires dans lesquels nous avons lancé Biogarant en Afrique de l'Ouest et centrale.
Pour une entreprise, le plus important, ce n'est pas les produits, mais plutôt de les mettre à la disposition de la population. Quels sont les mécanismes d'accès aux produits, non seulement à Kinshasa, à Lubumbashi, mais aussi dans les autres coins de la République démocratique du Congo?
Nous avons décidé de nous associer à un partenaire COGESAF, qui est basé en Belgique, mais qui a une filiale donc, à Kinshasa, Getraco. Et Sofaco, hein, il a deux filiales. Et il a plusieurs antennes dispersées. Il a quatre antennes actuellement, dispersées sur l'ensemble du territoire de République démocratique du Congo. Dans le même temps, nous avons décidé et nous avons fait le choix d'avoir une représentation médicale sur Kinshasa. Mais nous avons souhaité en parallèle être présents à Lubumbashi. Et ensuite, nous souhaiterions assez rapidement aller à Goma et sur les autres territoires qui sont un peu éloignés de Kinshasa. Puisque notre objectif, c'est de rendre nos produits disponibles à une large population, quel que soit le territoire où elle se trouve.
Quels sont les défis que vous avez trouvés que vous devez surmonter pour servir la population?
Les défis, c'est d'avoir un flux de produits qui soit continu, permanent, de manière à ce que les médecins puissent les prescrire, les pharmaciens puissent les délivrer et que les patients puissent avoir un traitement au long cours qui ne soit pas déstabilisé. Donc notre enjeu et notre défi principal sur lequel je suis extrêmement vigilant, c'est l'approvisionnement, la qualité de l'approvisionnement, les quantités approvisionnées, de manière à ce qu'on puisse véritablement traiter les pathologies des patients au long cours sans rupture. C'est ça mon défi principal.
Docteur Nicolas Folliot, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'était notre invité, le docteur Nicolas Folliot, directeur sport Biogarant, le laboratoire pharmaceutique qui a lancé le 11 février ses activités en RDC. Il s'entretenait avec Fulbert Balolagué. Fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté.